Chapitre 2. Christophe découvrit l'énorme puissance d'idéalisme qui animait les poètes, les musiciens, les savants français de son temps. Tandis que les maîtres du jour couvraient du fracas de leur sensualisme grossier la voix de la pensée française, celle-ci, trop aristocratique pour lutter de violence avec les cris outrecuidants de la racaille, continuait pour elle-même et pour son Dieu son chant ardent et concentré. Il semblait même que, désireuse de fuir le bruit répugnant du dehors, elle se fût retirée jusque dans ses retraites les plus profondes au cœur de son donjon. Les poètes, les seuls qui méritassent ce beau nom, prodigué par la presse et les académies à des bavards affamés de vanité et d'argent, les poètes, méprisant de la rhétorique impudente et du réalisme servile qui ronge l'écorce des choses sans pouvoir l'entamer, s'étaient retranchés au centre même de l'âme, dans une vision mystique où l'univers des formes et des pensées était aspiré, comme un torrent qui tombe dans un lac, et se colorait de la teinte de la vie intérieure. L'intensité de cet idéalisme, qui s'enfermait en soi pour recréer l'univers, le rendait inaccessible à la foule. Christophe lui-même ne le comprit pas d'abord. Le heurt était trop brusque après la foire sur la place. C'était comme si, au sortir d'une mêlée furieuse sous la lumière crue, il entrait dans le silence et la nuit. Ses oreilles bourdonnaient. Il ne voyait plus rien. Sur le premier moment, avec son ardent amour de la vie, il fut choqué du contraste. Dehors, mugissaient des torrents de passion qui bouleversaient la France, qui remuaient l'humanité. Et rien, au premier regard, n'en paraissait dans l'art. Christophe demandait à Olivier « Vous avez été soulevé jusqu'aux étoiles et précipité jusqu'aux abîmes par votre affaire Dreyfus. Où est le poète en qui a passé la tourmente ?» Il se livre en ce moment dans les âmes religieuses le plus beau combat qu'il y ait eu depuis des siècles entre l'autorité de l'Église et les droits de la conscience. Où est le poète en qui se reflète cette angoisse sacrée ? Le peuple des ouvriers se prépare à la guerre, des nations meurent, des nations ressuscitent, les Arméniens sont massacrés, l'Asie qui se réveille de son sommeil millénaire renverse le colosse moscovite, garde-clé de l'Europe. La Turquie, comme Adam, ouvre les yeux au jour. L'air est conquis par l'homme. La vieille terre craque sous nos pas et s'ouvre. Elle dévore tout un peuple. Tous ces prodiges, accomplis en 20 ans, et qui avaient de quoi alimenter 20 Iliades, où sont-ils, où est leur trace de feu, dans les livres de vos poètes? Sont-ils les seuls à ne pas voir la poésie du monde? Patience, mon ami, patience, lui répondait Olivier. Tais-toi, ne parle pas, écoute. Peu à peu s'effaçait le grincement de l'essieu du monde. Le grondement sur les pavés du char lourd de l'action se perdait dans le lointain. Et s'élevait le chant divin du silence. Le bruit d'abeilles, le parfum du tilleul, le vent avec ses lèvres d'or frôlant le sol des plaines, le doux bruit de la pluie avec l'odeur des roses. On entendait sonner le marteau des poètes, sculptant au flanc du vase la fine majesté des plus naïves choses, la vie grave et joyeuse, avec ses flûtes d'or et ses flûtes d'ébène, la religieuse joie, la fontaine de foi qui sourd des âmes, pour qui toute ombre est claire, et la bonne douleur qui vous berce et sourit, de son visage austère d'où descend une clarté surnaturelle, et la mort sereine aux grands yeux doux. C'était une symphonie de voix pure. Pas une n'avait l'ampleur sonore de ces trompettes de peuple que furent les Corneilles et les Hugo. Mais combien leur concert était plus profond et plus nuancé. La plus riche musique de l'Europe d'aujourd'hui. Olivier dit à Christophe, devenu silencieux, « Comprends-tu maintenant ?» Christophe, à son tour, lui fit signe de se taire. Bien qu'il préférât des musiques plus viriles, il buvait le murmure des bois et des ruisseaux de l'âme qu'il entendait bruire. Il chantait, parmi les luttes éphémères des peuples, l'éternelle jeunesse du monde, la bonté douce de la beauté, tandis que l'humanité, avec des aboiements d'épouvante et des plaintes, tourne en rond dans un champ aride et ténébreux, tandis que des millions d'êtres s'épuisent à s'arracher les uns aux autres les lambeaux sanglants de liberté, les sources et les bois répétaient « Libre, libre, sanctus, sanctus ». Il ne s'endormait pas en un rêve de sérénité égoïste. Dans le cœur des poètes, les voix tragiques ne manquaient point. Voix d'orgueil, voix d'amour, voix d'angoisse. C'était l'ouragan ivre, avec sa force rude ou sa douceur profonde, les forces tumultueuses, les épopées hallucinées de ceux qui chantent la fièvre des foules, les luttes entre les dieux humains, les travailleurs haletants, visages d'encre et d'or trouant l'ombre et la brume, dos musculeux tendus ou ramassés soudain autour de grands brasiers et d'énormes enclumes, forgeant la cité future. Et dans la lumière éclatante et obscure qui tombe sur les glaciers de l'intelligence, c'était l'héroïque amertume des âmes solitaires, se rongeant elles-mêmes avec une allégresse désespérée. Bien des traits de ces idéalistes semblaient à un Allemand plus allemand que français. Mais tous avaient l'amour du fin parler de France, et la sève des mythes de la Grèce coulait dans leurs poèmes. Les paysages de France et la vie quotidienne, par une magie secrète, se muaient dans leurs prunelles en des visions de l'Attique. On eût dit que chez ces Français du XXe siècle survécussent des âmes antiques et qu'elles eussent besoin de rejeter leur défroque moderne pour se retrouver dans leur belle nudité. De l'ensemble de cette poésie se dégageait un parfum de riche civilisation mûrie pendant des siècles qu'on ne pouvait trouver nulle part ailleurs en Europe. Qui l'avait respiré ne pouvait plus l'oublier. Il attirait de tous les pays du monde des artistes étrangers. Ils devenaient des poètes français, français jusqu'à l'intransigeance. Et l'art classique français n'avait pas de disciples plus fervents que ses anglo-saxons, ses flamands et ses grecs. Christophe, guidé par Olivier, se laissait pénétrer par la beauté pensive de la muse de France, tout en préférant à cette aristocratique personne, un peu trop intellectuelle pour son goût, une belle fille du peuple, simple, saine, robuste, qui ne raisonne point tant, mais qui aime. La même odeur di bellezza montait de tout l'art français, comme une odeur de fraises mûres monte des bois d'automne chauffés par le soleil. La musique était un de ces petits fraisiers dissimulés dans l'herbe. Christophe avait d'abord passé, sans le voir, habitué dans son pays à des buissons de musique, bien autrement touffu. Mais voici que le parfum délicat le faisait se retourner. Avec l'aide d'Olivier, il découvrait au milieu des ronces et des feuilles mortes, qui usurpaient le nom de musique, l'art raffiné et ingénu d'une poignée de musiciens. Parmi les champs maraîchers et les fumées d'usine de la démocratie, au cœur de la plaine Saint-Denis, dans un petit bois sacré, des faunes insouciants dansaient. Christophe écoutait avec surprise leur chant de flûte, ironique et serein, qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait entendu. Un petit ruisseau m'a suffi pour faire frémir l'herbe haute et tout le pré, et les doux saules et le ruisseau qui chante aussi. Un petit roseau m'a suffi à faire chanter la forêt. Sous la grâce nonchalante et le dilettantisme apparent de ces petites pièces pour piano, de ces chansons, de cette musique française de chambre, sur laquelle l'art allemand ne daignait pas jeter les yeux, et dont Christophe lui-même avait négligé la poétique virtuosité, il commençait à entrevoir la fièvre de renouvellement, l'inquiétude, inconnue de l'autre côté du Rhin, avec laquelle les musiciens français cherchaient dans les terrains incultes de leur art les germes qui pouvaient féconder l'avenir. Tandis que les musiciens allemands s'immobilisaient dans les campements de leurs pères et prétendaient arrêter l'évolution du monde à la barrière de leur victoire passée, le monde continuait de marcher, et les Français en tête se lançaient à la découverte. Ils exploraient les lointains de l'art, les soleils éteints et les soleils qui s'allument, et la Grèce disparue et l'Extrême-Orient rouvrant à la lumière, après des siècles de sommeil, ses larges yeux fendus, pleins de rêves immenses. Dans la musique d'Occident, canalisée par le génie d'ordre et de raison classique, il levait les écluses des anciens modes. Il faisait dériver dans leur bassin de Versailles toutes les eaux de l'univers, mélodies et rythmes populaires, gammes exotiques et antiques, genres d'intervalles nouveaux ou renouvelés. Comme avant eux, leurs peintres impressionnistes avaient ouvert à l'œil un monde nouveau, Christophe Colomb de la lumière, leurs musiciens s'acharnaient à la conquête de l'univers des sons. Ils pénétraient plus avant dans les retraites mystérieuses de Louis. Ils découvraient des terres inconnues dans cette mer intérieure. Plus que probablement, d'ailleurs, ils ne feraient rien de leur conquête. Suivant leur habitude, ils étaient les fourriers du monde. Christophe admirait l'initiative de cette musique qui renaissait d'hier et qui déjà marchait à l'avant-garde. Quelle vaillance il y avait dans cette élégante et menue petite personne! Il devenait indulgent pour les sottises que naguère il avait relevées en elle. Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. Mais l'erreur qui s'efforce vers la vérité vivante est plus féconde que la vérité morte. Quel que fût le résultat, l'effort était surprenant. Olivier montrait à Christophe l'œuvre accomplie depuis 35 ans et la somme d'énergie dépensée pour faire surgir la musique française du néant où elle dormait avant 1870. Sans école symphonique, sans culture profonde, sans tradition, sans maître, sans public, réduite au seul Berlioz qui mourait d'étouffement et d'ennui. Et Christophe, maintenant, éprouvait du respect pour ceux qui avaient été les artisans du relèvement national. Il ne songeait plus à les chicaner sur les étroitesses de leur esthétique ou sur leur manque de génie. Ils avaient créé plus qu'une œuvre, un peuple musicien. Entre tous les grands ouvriers qui avaient forgé la nouvelle musique française, une figure lui était chère, celle de César Franck, qui, mort avant de voir la victoire qu'il avait préparée, avait, comme le vieux Schütz, gardé en lui intact, pendant les années les plus mornes de l'art français, le trésor de sa foi et le génie de sa race. Apparition émouvante. Au milieu du Paris jouisseur, ce maître angélique, ce saint de la musique, conservant dans une vie de gêne, de labeur dédaigné, l'inaltérable sérénité de son âme patiente, dont le sourire résigné éclairait l'œuvre de bonté. Pour Christophe, ignorant la vie profonde de la France, c'était un phénomène presque miraculeux que ce grand artiste croyant au sein d'un peuple athée. Mais Olivier, haussant doucement les épaules, lui demandait dans quel pays d'Europe on pouvait trouver un peintre dévoré du souffle de la Bible à l'égal du puritain François Millet, un savant plus pénétré de foi ardente et humble que le lucide Pasteur, prosterné devant l'idée de l'infini, et, quand cette pensée s'emparait de son esprit, dans une poignante angoisse, comme il disait lui-même, demandant grâce à sa raison, tout près d'être saisi par la sublime folie de Pascal. Le catholicisme n'était pas plus une gêne pour le réalisme héroïque du premier de ces deux hommes que pour la raison passionnée de l'autre, parcourant d'une marche sûre, sans dévier d'un pas, les cercles de la nature élémentaire, la grande nuit de l'infiniment petit, les derniers abîmes de l'être où naît la vie. Chez le peuple de province, d'où ils étaient sortis, ils avaient puisé cette foi qui couvait toujours dans la terre de France et qu'essayait en vain de nier la faconde de quelques démagogues. Olivier la connaissait bien, cette foi. Il l'avait portée dans son sein. Il montrait à Christophe le magnifique mouvement de rénovation catholique tenté pendant 25 ans, l'effort brûlant de la pensée chrétienne en France pour épouser la raison, la liberté, la vie. Ces prêtres admirables qui avaient le courage, ainsi que disait l'un d'eux, de se faire baptiser homme, qui revendiquaient pour le catholicisme le droit de tout comprendre et de s'unir à toute pensée loyale. Car toute pensée loyale, même quand elle se trompe, est sacrée et divine. Ces milliers de jeunes catholiques, formant le vœu généreux de bâtir une république chrétienne, libre, pure, fraternelle, ouverte à tous les hommes de bonne volonté, et malgré les campagnes odieuses, les accusations d'hérésie, les perfidies de droite et de gauche, surtout de droite, dont ces grands chrétiens étaient l'objet, la petite légion moderniste, avançant dans le rude défilé qui menait à l'avenir, le front serein, résigné aux épreuves, sachant qu'on ne peut rien édifier de durable sans le cimenter de ses larmes et de son sang. Le même souffle d'idéalisme vivant et de libéralisme passionné ranimait les autres religions en France. Un frisson de vie nouvelle parcourait les vastes corps engourdis du protestantisme et du judaïsme. Tous s'appliquaient, avec une noble émulation, a créé la religion d'une humanité libre qui ne sacrifia rien ni de ses puissances d'enthousiasme ni de ses puissances de raison. Cette exaltation religieuse n'était pas le privilège des religions, elle était l'âme du mouvement révolutionnaire. Elle prenait là un caractère tragique. Christophe n'avait vu jusqu'alors que le bas socialisme, celui des politiciens, qui faisaient miroiter aux yeux de leur clientèle affamée le rêve enfantin et grossier du bonheur, ou, pour parler plus franc, du plaisir universel que la science, aux mains du pouvoir, devait, disait-il, leur procurer. Contre cet optimisme nauséabond, Christophe voyait se dresser la réaction mystique et forcenée de l'élite qui guidait au combat les syndicats ouvriers. C'était un appel à la guerre qui engendre le sublime, qui seul peut redonner au monde mourant un sens, un but, un idéal. Ces grands révolutionnaires qui vomissaient le socialisme bourgeois, marchand, pacifiste à l'anglaise, lui opposaient une conception tragique de l'univers, dont l'antagonisme est la loi qui vit de sacrifices perpétuels, constamment renouvelés. Si l'on pouvait douter que l'armée que ses chefs lançaient à l'assaut du vieux monde comprît ce mysticisme guerrier, appliquant à l'action violente Kant et Nietzsche à la fois, ce n'en était pas moins un spectacle saisissant que cette aristocratie révolutionnaire, dont le pessimisme enivré, la fureur de vie héroïque, la foi exaltée dans la guerre et dans le sacrifice, semblait l'idéal militaire et religieux d'un ordre teutonique ou de samouraï japonais. Rien de plus français pourtant. C'était une race française dont les traits se conservaient immuables depuis des siècles. Par les yeux d'Olivier, Christophe les retrouvait dans les tribuns et les proconsuls de la Convention, dans certains des penseurs, des hommes d'action, des réformateurs français de l'Ancien Régime. Calvinistes, jansénistes, jacobins, syndicalistes, partout le même esprit d'idéalisme pessimiste, luttant avec la nature, sans illusion et sans découragement, l'armature de fer qui soutient la nation, souvent en la broyant. Christophe respirait le souffle de ces luttes mystiques, et il commençait à comprendre la grandeur de ce fanatisme, où la France apportait une loyauté intransigeante, dont les autres nations, plus familières avec les combinazioni, n'avaient aucune idée. Comme tous les étrangers, il s'était donné d'abord le plaisir de faire des plaisanteries faciles sur la contradiction, trop manifeste, entre l'esprit despotique des Français et la formule magique dont leur république marquait au front les édifices. Pour la première fois, il entrevit le sens de la liberté belliqueuse qu'ils adoraient, l'épée menaçante de la raison. Non, ce n'était pas pour eux une simple rhétorique, une idéologie vague comme ils l'avaient cru. Chez un peuple où les besoins de la raison étaient les premiers de tous, la lutte pour la raison dominait toutes les autres. Qu'importait que cette lutte parût absurde au peuple qui se disait pratique. À un regard profond, la lutte pour la conquête du monde, pour l'empire ou pour l'argent, ne se montre pas moins vaine. Et des unes et des autres, dans un million d'années, il ne restera rien. Mais si ce qui donne son prix à la vie, c'est l'intensité de la lutte, où s'exaltent toutes les forces de l'être jusqu'à son sacrifice à un être supérieur, peu de combats honorent plus la vie que l'éternelle bataille livrée en France pour ou contre la raison. Et à ceux qui en ont goûté l'âpre saveur, la tolérance apathique tant vantée des anglo-saxons paraît fade et peu virile. Les anglo-saxons la rachètent en trouvant ailleurs l'emploi de leur énergie. Mais leur énergie n'est point là. La tolérance n'est grande que quand, au milieu des partis, elle est un héroïsme. Dans l'Europe d'alors, elle n'était le plus souvent qu'indifférence, manque de foi, manque de vie. Les Anglais, arrangeant à leur usage une parole de Voltaire, se vantent volontiers que la diversité des croyances a produit plus de tolérance en Angleterre que ne l'a fait en France la Révolution. C'est qu'il y a plus de foi dans la France de la Révolution que dans les croyances de l'Angleterre. De ce cercle d'airain de l'idéalisme guerrier, des batailles de la raison, comme Virgile guidait Dante, Olivier conduisit Christophe par la main au sommet de la montagne où se tenait, silencieuse et sereine, la petite élite des Français vraiment libres. Nuls hommes plus libres au monde. La sérénité de l'oiseau qui plane dans le ciel immobile. À ces hauteurs, l'air était si pur, si raréfié, que Christophe avait peine à respirer. On voyait là des artistes qui prétendaient à la liberté illimitée du rêve, subjectivistes effrénés, méprisant, comme Flaubert, les brutes qui croient à la réalité des choses. Des penseurs, dont la pensée ondoyante et multiple, se calquant sur le flot sans fin des choses mouvantes, allaient, coulant et roulant sans cesse, ne se fixant nulle part ne rencontrant le sol résistant, le roc, et ne peignaient pas l'être, mais peignaient le passage, comme disait Montaigne, le passage éternel, de jour en jour, de minute en minute. Des savants qui savaient le vide et le néant universel, où l'homme a fabriqué sa pensée, son Dieu, son art, sa science, et qui continuait à créer le monde et ses lois, ce rêve puissant d'un jour. Il ne demandait pas à la science le repos, le bonheur, ni même la vérité, car il doutait de l'atteindre. Il l'aimait pour elle-même, parce qu'elle était belle, seule réelle. Sur les cimes de la pensée, on voyait ces savants, pyrrhoniens passionnés, indifférents à la souffrance, aux déceptions et presque à la réalité, écoutant, les yeux fermés, le concert silencieux des âmes, la délicate et grandiose harmonie des nombres et des formes. Ces grands mathématiciens, ces libres philosophes, les esprits les plus rigoureux et les plus positifs du monde, étaient à la limite de l'extase mystique. Ils creusaient le vide autour d'eux. Suspendu sur le gouffre, il se grisait de son vertige. Dans la nuit sans bornes, il faisait luire, avec une sublime allégresse, l'éclair de la pensée. Christophe, penché auprès d'eux, essayait de regarder aussi, et la tête lui tournait. Lui qui se croyait libre, parce qu'il s'était dégagé de toute autre loi que celle de sa conscience, il sentait, avec effarement, combien il l'était peu, auprès de ces Français affranchis même de toute loi de l'esprit, de tout impératif catégorique, de toute raison de vivre. Pourquoi donc vivait-il? Pour la joie d'être libre, répondait Olivier. Mais Christophe, qui perdait pied dans cette liberté, en arrivait à regretter le puissant esprit de discipline, l'autoritarisme allemand. Et il disait, « Votre joie est un leurre, le rêve d'un fumeur d'opium. Vous vous grisez de liberté, vous oubliez la vie. La liberté absolue, c'est la folie pour l'esprit, l'anarchie pour l'État. La liberté, qui est libre en ce monde? Qui est libre dans votre république? Les gredins. Vous, les meilleurs, vous êtes étouffés. Vous ne pouvez plus que rêver. Bientôt, vous ne pourrez même plus rêver. N'importe, dit Olivier, tu ne peux savoir, mon pauvre Christophe, les délices d'être libre. Ils valent bien qu'on les paye de risques, de souffrance et même de la mort. Être libre, sentir que tous les esprits sont libres autour de soi. Oui, même les gredins, c'est une volupté inexprimable. Il semble que l'âme nage dans l'air infini. Elle ne pourrait plus vivre ailleurs. Que me fait la sécurité que tu m'offres, le bel ordre, la discipline impeccable, entre les quatre murs de ta caserne impériale? J'y mourrais asphyxié. De l'air, toujours plus d'air, toujours plus de liberté. Il faut des lois au monde, dit Christophe. Tôt ou tard, le maître vient. Mais Olivier, railleur, rappela à Christophe la parole du vieux Pierre de l'Étoile. Il est aussi peu en la puissance de toute la faculté terrienne d'engarder la liberté française de parler, comme d'enfouir le soleil en terre ou l'enfermer dedans un trou. Christophe s'habituait peu à peu à l'ère de la liberté illimitée. Des sommets de la pensée française, où rêvent les esprits qui sont toute lumière, il regardait à ses pieds les pentes de la montagne, où l'élite héroïque qui lutte pour une foi vivante, quelle que soit cette foi, s'efforce éternellement de parvenir au fait. Ceux qui mènent la guerre sainte contre l'ignorance, la maladie, la misère, la fièvre d'invention, le délire raisonné des Prométhées et des Icares modernes qui conquièrent la lumière et frayent les routes de l'air, le combat gigantesque de la science contre la nature. Plus bas, troupes silencieuses, les hommes et les femmes de bonne volonté, les cœurs braves et humbles, qui, au prix de mille peines, ont atteint à mi-côte et ne peuvent aller plus haut, rivés à une vie médiocre, se brûlant en secret dans l'obscur dévouement. Plus bas, au pied du mont, dans l'étroit défilé entre les pentes escarpées, la bataille sans fin, les fanatiques d'idées abstraites, d'instincts aveugles, qui s'étreignent furieusement et ne se doutent point qu'il y a quelque chose au-delà, au-dessus de la muraille des rochers qui les enserrent. Plus bas, les marécages et le bétail vautré dans son fumier. Et partout, çà et là, le long des flancs du mont, les fraîches fleurs de l'art, les fraisiers parfumés de musique, le chant des sources et des oiseaux poètes. Et Christophe demanda à Olivier, « Où est votre peuple ? Je ne vois que des élites, bonnes ou malfaisantes. » Olivier répondit, « Le peuple, il cultive son jardin. Il ne s'inquiète pas de nous. Chaque groupe de l'élite essaye de l'accaparer. Il ne se soucie d'aucun. Naguère, il écoutait encore, au moins par distraction, le boniment des battleurs politiques. À présent, il ne se dérange plus. Ils sont quelques millions qui n'usent même pas de leurs droits d'électeur. Que les partis se cassent la tête entre eux, le peuple n'en a cure, à moins qu'en se battant, ils ne viennent à fouler ses champs, auquel cas ils se fâchent et étrillent au hasard l'un et l'autre parti. Il n'agit pas, il réagit, peu importe dans quel sens, contre les exagérations qui gênent son travail et son repos. Roi, empereur, république, curé, franc-maçon, socialiste, quels que soient ses chefs, tout ce qu'il leur demande, c'est de le protéger contre les grands dangers communs, la guerre, le désordre, les épidémies, et, pour le reste, qu'il puisse en paix cultiver son jardin. Au fond, il pense, est-ce que ces animaux-là ne me laisseront pas tranquille ? Mais ces animaux-là sont si bêtes qu'ils harcèlent le bonhomme et qu'ils n'auront pas de cesse qu'il ne prenne enfin sa fourche et ne les flanque à la porte, comme il arrivera quelque jour de nos maîtres de l'heure. Jadis, il s'est emballé pour de grandes entreprises. Cela lui arrivera peut-être encore, quoiqu'il ait jeté sa gourme depuis longtemps. En tout cas, ses emballements ne durent guère. Vite, il revient à sa compagne séculaire, la terre. C'est elle qui attache les Français à la France, beaucoup plus que les Français. Ils sont tant de peuples différents qui travaillent depuis des siècles côte à côte sur cette brave terre que c'est elle qui les unit. Elle est leur grand amour. Au travers heure et malheur, ils la cultivent sans cesse, et tout leur est bon, les moindres lopins du sol. Christophe regardait. Aussi loin qu'on put voir, le long de la route, autour des marécages, sur la pente des rochers, parmi les champs de bataille et les ruines de l'action, la montagne et la plaine de France, tout était cultivé. C'était le grand jardin de la civilisation européenne. Son charme incomparable ne tenait pas moins à la bonne terre féconde qu'à l'effort opiniâtre d'un peuple infatigable qui jamais depuis des siècles n'avait cessé de la remuer, de l'ensemencer et de la faire plus belle. L'étrange peuple, chacun le dit inconstant, et rien en lui ne change. Les yeux avertis d'Olivier retrouvaient dans la statuaire gothique tous les types des provinces d'aujourd'hui. De même que dans les crayons des Clouet ou des Dumoutier, les figures fatiguées et ironiques des mondains et des intellectuels, ou dans la peinture de Lenain, l'esprit et les yeux clairs des ouvriers et des paysans d'Île-de-France ou de Picardie. La pensée d'autrefois circulait à travers les consciences d'aujourd'hui. L'esprit de Pascal était vivant, non seulement chez l'élite raisonneuse et religieuse, mais chez d'obscurs bourgeois ou chez les syndicalistes révolutionnaires. L'art de Corneille et de Racine était vivant pour le peuple. Un petit employé de Paris se sentait plus proche d'une tragédie du temps du roi Louis XIV que d'un roman de Tolstoï ou d'un drame d'Ibsen. Les chants du Moyen-Âge, le vieux Tristan français, avaient plus de parenté avec les Français modernes que le Tristan de Wagner. Les fleurs de la pensée qui, depuis le XIIe siècle, ne cessaient de s'épanouir dans le parterre français, si diverses qu'elles fussent, étaient parentes entre elles, et toutes étaient différentes de tout ce qui les entourait. Christophe ignorait trop la France pour bien saisir la constance de ses traits. Ce qui le frappait surtout, dans ce riche paysage, c'était le morcellement extrême de la terre. Comme le disait Olivier, chacun avait son jardin, et chaque lopin était séparé des autres par des murs, des haies vives, des clôtures de toutes sortes. tout au plus s'il y avait ça et là quelques prés et quelques bois communaux, ou si les habitants d'un côté de la rivière se trouvaient forcément plus rapprochés entre eux que ceux de l'autre côté. Chacun s'enfermait chez soi, et il semblait que cet individualisme jaloux, au lieu de s'affaiblir après des siècles de voisinage, fut plus fort que jamais. Christophe pensait « comme ils sont seuls ».